Alors, Isabelle va présenter sa réflexion. Je dirai quelques mots d'Isabelle. Isabelle est aujourd'hui à l'université d'Aix-Marseille. Elle est alors philosophe. Je sais que, enfin, vous faites tous de la philosophie. Vous êtes philosophe et aussi autre chose. Et c'est cette autre chose qu'on découvre dans vos travaux. Et Isabelle a travaillé. Alors, j'ai trouvé des choses très intéressantes sur un site, nerval.fr. Et nerval.fr, c'est une revue web, elle se définit comme ça, pour l'invention de récits. Exceptionnel, ça. Une revue web pour l'invention de récits. Et j'ai le sentiment que dès qu'on va sur le web, ce que j'ai découvert, c'est une personne double ou triple, et en tout cas qui forme un vrai tout, et c'était notre échange ce matin. Ce vrai tout, c'est ce mariage sans frontières entre le chercheur et l'écrivain. Et ça, je trouve ça tout à fait fantastique, et j'attends le livre qui doit sortir, le livre d'Isabelle, Anthologie du web. Je vous le recommande et je me le recommande aussi, qui doit sortir en 2016. Donc voilà, Isabelle, je vous passe la parole.
Merci beaucoup, Françoise, de ces mots et de cet accueil. Je suis très heureuse de pouvoir parler aujourd'hui avec vous de ces questions dont, effectivement, j'avais essayé de cacher à quel point j'avais une double ou triple occupation, mais ça ne vous a pas échappé et voilà que je suis totalement démasquée. Alors, en fait, moi, j'ai été très intéressée par la triple question qui a été posée par les organisateurs, et je trouve qu'elle est très bien posée, cette triple question. Je garde de ma formation philosophique un esprit critique. Je crois que je vais changer l'ordre, en fait, si les organisateurs me le permettent. C'est-à-dire que je vais plutôt commencer par demander ce qu'est le web. Ensuite, pour me demander ce qu'il fait, et ensuite simplement pour aborder, disons, ce que le web peut chercher à faire, ce qu'il veut faire, et sans doute vers quoi il pourrait devoir se diriger. J'introduis peut-être une formulation un tout petit peu normative sur laquelle je reviendrai. Bon, ce désordre que je mets dans les questions, pour moi, est totalement signifiant, en fait. Parce que je pense que d'abord, il faut fonder, ancrer en fait notre discussion sur le web dans un rapport à l'ontologie. Et il est assez difficile au fond de savoir quel est le type d'objet auquel on a affaire quand on est sur le web. D'abord parce que en même temps qu'on y est et en même temps qu'on l'approche et qu'on le regarde, on y participe et on le constitue. Donc, en fait, on est constamment face à un objet qui est totalement mouvant, qui n'est pas indifférent ni non modifié par notre apparition dans le web, puisque on va, alors, on commence sans doute plutôt par poster des commentaires sur des sites, et une fois qu'on a posté des commentaires, on crée un site, on crée un compte sur un réseau social, et dans tout ça, on participe à un objet qui n'est pas celui sur lequel on va surfer, mais à mon avis, celui dans lequel on se plonge, sans d'ailleurs avoir du tout prévu ni ce qu'on y fera, ni ce qu'il nous apportera, ni absolument rien de ce qui s'y produira. Alors, pour cette raison-là, j'ai eu l'impression que, au regard de ce qu'on a dit de l'ontologie de cet objet, avec quoi, en général, j'avoue, je suis très en désaccord, pas hier ni ici, mais disons dans ce que j'ai pu lire sur l'ontologie du web, j'ai pensé qu'il fallait d'abord s'interroger sur ce qu'est réellement cet objet, avant d'aborder la question de qu'est-ce qu'il produit et qu'est-ce qu'il pourrait vouloir faire. Donc voilà pour le très léger désordre que j'instaurerai. Et la question que je voulais poser, alors il y a une trace de la première version de mon travail qui est en anglais, et puis gentiment, quand les organisateurs m'ont dit que je pouvais parler en français, je ne me suis pas trop fait prier parce que je massacre terriblement l'anglais. Je crois que j'aurai la prime. Donc la question que je voulais poser était de savoir, en fait, s'il pouvait y avoir des changements réels qui venaient d'un monde virtuel. Bon, alors là, pour moi, ici, la question se précise. Puisque, effectivement, on a l'habitude de parler du web comme d'un monde virtuel et de parler. Alors, Il s'y prête bien, hein, je le reconnais, puisque le web, c'est, je le disais moi-même tout à l'heure, à l'instant, c'est un espace dans lequel il y a des potentialités, et ces potentialités, elles sont ce que nous en faisons chacun d'entre nous lorsque nous arrivons sur le web. Donc finalement, l'installer dans une dimension de virtualité, de potentialité inexplorée, inexploitée encore pour le moment, à la fois, ça me paraît une très bonne chose, mais est-ce que parce que c'est un monde qui nous permet de développer, de déployer des possibles, est-ce que pour cette raison-là, on peut en faire un monde virtuel ? Alors, je vais surtout m'attacher dans la présentation que je vais vous faire à montrer quels sont mes arguments pour dire qu'on a mal pensé le web en le pensant comme un monde virtuel. Je vais essayer en fait de le rattacher au monde dans lequel nous sommes, monde réel si vous voulez, mais plus précisément dans le vocabulaire philosophique, je dirais que c'est le monde actuel. Et je m'expliquerai de cette variation entre réel et actuel et de ma préférence pour le terme d'actualité. Un argument très puissant, dans mon esprit, c'est que il y a des changements réels, des changements effectifs qui traversent notre monde et qui nous viennent du web. Alors, pour cette raison-là, très simple, hein, je vous donne la clé de mon travail avant la quatrième minute. Bon, pour cette raison-là, il me paraît impossible philosophiquement de continuer à dire que c'est un monde virtuel. Voilà. Si c'est une partie du monde, si c'est un objet, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et je vais m'installer aussi dans cette discussion, mais si c'est un objet qui produit des changements dans notre monde actuel, réel, alors il est impossible que le web soit un monde virtuel. Et chaque fois qu'on en parle en termes de virtualité, il faut s'interroger sur quelle différence on entretient avec ce qu'il est effectivement. Alors, au fond, sur la structure du web et sur l'ontologie du web, moi, je crois qu'il y a deux hypothèses contradictoires qu'on peut formuler, qui est soit le web est un monde virtuel, et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est un monde possible, pour la raison très simple que possible, en philosophie, on sait bien ce que c'est, en fait. Ça a été thématisé depuis Aristote, en passant par Leibniz, et jusqu'à la très puissante modélisation qu'en a proposé David Lewis. Alors, si on dit que c'est un monde virtuel, est-ce que c'est un monde possible ? Qu'est-ce que ça veut dire que virtuel ? Est-ce que simplement ça veut dire qu'il a en lui des virtualités inexplorées ? Mais alors, auquel cas, j'aurais tendance à vous dire que c'est la même chose que de notre monde. Au fond, quand on est dans la réalité la plus quotidienne, je crois qu'il y a un tas de réalités qui sont inexplorées et qui ne font pas de notre monde quotidien un monde virtuel. Alors ça, c'est la première hypothèse dont je trouve qu'elle est assez dominante, en fait, hein, à propos du web. Et la deuxième hypothèse, qui est celle que sur laquelle je voudrais me recentrer aujourd'hui, en fait, c'est que dans la mesure où le web a des conséquences dans notre monde, certes des conséquences néfastes, ça aussi c'est un point important de la discussion, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à insister sur la dimension très néfaste des conséquences du web sur notre monde, ça va de l'addiction jusqu'au recrutement des terrorismes, c'est des choses qu'on manipule beaucoup à propos du web. Bon, moi, je pense qu'il n'a pas que des conséquences néfastes. C'est aussi ce que je vais essayer de contrebalancer, hein, en fait, dans cette conférence. Mais alors, s'il a des conséquences sur notre monde, si on est cohérent, il fait partie de notre monde actuel et il faut arrêter d'en parler comme d'un monde virtuel. Voilà, pour moi, il y a vraiment une exclusive, hein, qui se met en place à cet endroit-là. On ne peut pas tenir, en fait, l'hypothèse que le web est un monde virtuel si on s'inquiète des conséquences qu'il a dans notre monde actuel. Voilà, donc il faut choisir, en fait. Et je commence par explorer et expliciter l'argument ontologique que j'emploie, donc qui est un argument, je vous le disais, que j'emprunte à David Lewis dans The Plurality of Worlds, qui est devenu un ouvrage qui est assez récent, hein, 1986, mais qui est au fond déjà un classique de la philosophie. Et je crois qu'on ne peut pas faire comme si cet ouvrage n'avait pas été écrit. Où David Lewis souligne d'abord une chose qui sera importante pour moi ici, qui je lui emprunte en fait beaucoup de mes arguments, même s'il n'a pas écrit sur le web. Il souligne que le monde dans lequel nous vivons a une forte capacité d'inclusion. Alors, cet argument-là me semble directement plaider pour une inclusion du web dans notre monde, puisque je vois mal comment on pourrait penser que ce web dont on dit qu'il nous absorbe, qu'il est chronophage, qu'il demande notre attention constamment, qu'il nous détourne de la vie sociale en nous désocialisant sur les réseaux sociaux, ce qui est un peu paradoxal d'une certaine manière. Bon, comment penser que ce web qui nous absorbe n'absorberait pas notre monde, en fait ? Et ne serait pas en même temps absorbé par lui. C'est plutôt dans ce sens-là, au fond, que va l'argument de David Lewis. C'est-à-dire que si effectivement un monde a une forte capacité d'inclusion et que tout ce qu'on y fait se trouve inclus ipso facto parce qu'on le fait dans ce monde, à l'intérieur de ce monde, alors je vois mal comment on pourrait continuer à dire qu'il y a le monde réel et il y a un monde virtuel qui est le web. Alors, du coup, si c'est pas deux mondes différents, je m'installe un tout petit peu dans mon hypothèse. Hein, si le web est le monde quotidien, je préfère sans doute cette expression-là, bien que le web soit aussi quotidien. Mais enfin, bon, si c'est pas deux mondes différents, si on n'a pas affaire à un monde virtuel et au monde réel, il faut accepter de voir l'écran non pas comme une frontière, mais comme un point de passage. Et c'est effectivement ce à quoi je vais me livrer dans cette présentation et dont sans doute j'aimerais discuter avec vous. C'est la modification du paradigme que je vais essayer de proposer aujourd'hui à propos du web, puisque bon, on a tendance à voir l'écran comme une frontière. L'analyse de ce point de vue-là que fait Achille Varzi dans l'ouvrage de 1997 sur la frontière, de ce qu'est une frontière et de la difficulté qu'il y a à penser une frontière, c'est-à-dire le moment où un espace se termine et un autre commence, mais évidemment vous comprenez que même en disant les choses de façon très intuitive, c'est quasi paradoxal en fait le concept de frontière. Parce qu'on n'a pas une zone frontalière, mais on a le passage soudain de l'un à l'autre et sans aucune extension à ce concept de frontière qui ne peut être, s'il a du sens, que géométrique. Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille penser l'écran connecté comme une frontière et je pense qu'il vaut mieux aller dans la représentation fluide du web. Et je vais m'expliquer sur ce terme de fluide parce qu'il y a aussi l'ontologie liquide et je ne m'installe pas du tout dans l'ontologie liquide. Alors, on pourrait aussi se demander, c'est une autre hypothèse, si l'écran n'est pas une fenêtre. C'est-à-dire qu'il nous permet, une fenêtre un peu étrange, mais après tout, hein, il a bien cette dimension de vitre, comme celles qui sont derrière moi. Bon, est-ce qu'il n'est pas une fenêtre avec la séparation que la fenêtre instaure, à ceci près que l'écran ne serait pas une fenêtre qu'on pourrait ouvrir, bien évidemment, mais qui ne fonctionne que quand elle est fermée. Bon. Moi, je propose de considérer que l'écran est un point de passage possible, et que ce qu'il nous permet de faire, c'est de continuer nos gestes de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire que ce que je fais actuellement, pas actuellement puisque là je ne suis pas en train de surfer sur Internet, mais ce que nous faisons lorsque nous surfons sur Internet, c'est accomplir des gestes d'un certain côté de l'écran. Et la connexion de notre ordinateur fait en sorte que ces gestes ne s'arrêtent pas à l'espace dans lequel je suis actuellement, mais se continuent de l'autre côté de l'écran et soient prolongés, peut-être d'ailleurs amplifiés, en fait, de l'autre côté de l'écran, puisque, bien évidemment, ce qui se passe lorsque nous sommes connectés à Internet, c'est que nous avons la possibilité, via la connexion, de répercuter nos paroles, celles que nous prononçons dans le monde immédiatement accessible, dans un monde qui n'est pas accessible en dehors de la connexion. Alors, je vais essayer donc d'instaurer un peu de fluidité hein, dans la représentation qu'on a d'Internet. Et pour cela, j'ai besoin de remplacer tout ce qui sera des structures d'opposition par des structures de continuité, en fait. Alors, par exemple, je reviens sur une opposition qui a été importante pour moi. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout saisi quand je suis arrivée sur Internet. Bon, vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui ne cessent de dire « je quitte, je retourne IRL » et bon, pendant quelques temps, je me suis demandé ce que pouvait alors, bien vouloir dire IRL, IVL, bon, in real life, in virtual life, et vous remarquez le slash, c'est-à-dire que moi j'interprète comme une opposition et comme la structure d'une frontière en fait. Alors, par exemple, je quitte, je retourne IRL par exemple. Pourquoi est-ce que cette opposition, on n'essaierait pas de la remplacer par l'idée que ce que nous faisons d'un côté et de l'autre de l'écran continue ce que nous faisons et n'est qu'un seul et même geste qui se manifeste d'un côté ou de l'autre de l'écran. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de montrer, c'est que cette hypothèse, elle est plus simple, elle est plus fonctionnelle, en fait. Hein, c'est quasiment un argument d'économie, si vous voulez, de paresse philosophique. Au fond, on a une représentation très coûteuse d'Internet en termes de frontières, d'opposition, de monde virtuel, qui, à mon avis, ne fonctionne pas très bien. Et si on la remplace par une structure de continuité, de continuation de nos gestes de l'autre côté de l'écran, ben, au fond, on le pense beaucoup mieux et on le pense beaucoup plus facilement. Alors, là, j'ai une proposition à faire qui est de remplacer l'opposition qu'on ne peut pas s'empêcher d'utiliser. Hein, elle est assez séduisante et elle est assez efficace. Mais de remplacer l'opposition, du moins dans nos esprits, parce qu'il ne s'agit pas de corriger le langage, mais de remplacer l'opposition IRL-IVL par l'opposition entre, au fond, ce qu'on appelle la vie réelle, c'est la vie à laquelle on accède dans le monde immédiatement accessible par nos sens, et ce qu'on appelle la vie virtuelle, c'est la vie que nous menons dans un monde, ou dans une partie du monde plutôt, puisque je tiens cette hypothèse de l'absorption, mais c'est cette vie que nous menons dans un monde auquel nous ne pouvons accéder, et c'est bien malheureux, et ça induit quelques crises de rage ou de panique lorsque nous perdons la connexion à Internet, nous ne pouvons y accéder que par notre smartphone connecté, la connexion 3G, la Wi-Fi, nos ordinateurs, etc. Mais notre vie, elle est là. Moi, je verrais moins, par exemple, dans notre angoisse lorsque notre iPhone s'éteint, je verrais moins le signe d'une addiction que le fait que nous n'avons plus accès à une partie de notre vie et qu'évidemment, c'est extrêmement désagréable et c'est extrêmement angoissant si on attend un message important sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi c'est de l'addiction, en fait. Hein. C'est notre vie se continuant et interrompue par un problème technique. Alors, de ce point de vue-là, je pense que mon hypothèse, elle est plus simple, en fait. Elle va éliminer un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça que je choisis de vous la présenter et je la défends. Alors, j'avance un peu dans l'argument ontologique de David Lewis, toujours emprunté à la pluralité des mondes possibles. Pour David Lewis, c'est un argument extrêmement fort pour refuser de séparer deux mondes. C'est que deux mondes qui sont reliés causalement sont un seul et même monde. Bon, à partir du moment où vous pouvez décrire, repérer, identifier une causalité transversale entre un monde et l'autre, vous n'êtes plus ontologiquement fondé à le distinguer. Alors, finalement, si j'arrive à montrer, bon, vous voyez évidemment, vous avez compris comment j'allais utiliser cet argument. S'il y a une causalité transversale ou des causalités transversales, puisqu'il y en a dans les deux sens en fait, hein, qui relient Internet et notre monde, soit d'Internet vers notre monde, soit de notre monde vers Internet, on n'aura pas d'argument ontologique pour continuer à distinguer Internet et notre monde comme si c'était deux mondes différents. Bon, on aura perdu en fait le fondement ontologique de cette distinction. Et au fond, on n'a pas besoin de trouver des arguments dans les deux sens. Vous voyez, là, il y a un argument d'économie, encore une fois. Hein. Vous voyez que la philosophie m'incite à la paresse. Il y a un argument d'économie. Il suffit de repérer une causalité d'Internet vers notre monde ou une causalité de notre monde vers Internet pour ne plus pouvoir les distinguer. Bon, en fait, c'est extrêmement facile de repérer des causalités dans les deux sens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On pourrait en donner de multiples exemples. Bon, premier exemple, causalité transversale de notre monde vers Internet. Bon, alors, d'abord, si l'action, c'est un geste, hein, y a toute une discussion, évidemment, en philosophie pratique, sur quel est le rapport entre le geste et l'action. Et une hypothèse qui me paraît assez intéressante, c'est de considérer, et assez claire, en fait, hein, c'est de considérer que l'action survient sur les gestes que nous faisons dans le monde. C'est pas pareil de faire un geste et de faire une action, bien évidemment. Un geste, ça peut être d'éternuer ou de bâiller. Bon, et ça, c'est pas des actions. Alors, par contre, certains gestes se transforment en actions. Par exemple, je sais pas, lorsque nous jouons avec un enfant et que nous construisons une tour avec des petites planches de bois. Alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous bougeons les doigts sur notre clavier. C'est donc un geste dans cette partie du monde immédiatement accessible qu'on appelle le monde réel. Et lorsque nous bougeons les doigts sur notre clavier, nous postons un tweet sur Twitter. Bon, il y a donc un transfert de causalité, vous voyez, c'est-à-dire que ce que j'ai fait d'un côté de l'écran se répercute dans le monde auquel je ne peux accéder que par la connexion, mais je ne peux accéder à ce monde-là. On parlait hier des problèmes pour connecter un ordinateur qu'on avait autrefois, qu'on n'a plus maintenant, etc. Je ne peux accéder à cet univers qui est Internet ou à cette partie du monde qui est Internet que parce que j'accomplis des gestes à l'intérieur du monde dans lequel je me trouve. Bon. Donc, il faut réinstaurer l'idée d'une fluidité et d'un passage possible entre notre monde. Bon, j'ai multiplié les exemples, ils ne sont pas tous très bons. Nous nous marions, donc nous changeons notre statut sur Facebook et nous passons de célibataire à en couple ou marié. Nous voyageons et nous ouvrons un Tumblr pour partager nos photos. Bon, à quoi ça me sert? Pardon, je vais trop vite. Ça me sert effectivement, vous l'avez compris, on peut susciter tous les exemples qu'on veut dans ce sens-là. Alors inversement, causalité transversale d'Internet vers notre monde. Là, je vais montrer qu'Internet est la cause d'effets dans notre monde. Alors, pas uniquement d'effets pervers. Hein. Effectivement, il y a l'addiction, le terrorisme, certes. Mais il y a aussi, par exemple, le fait que nous réservons sur Internet un billet de train et nous voyageons. Plus intéressant pour moi, parce que ça touche au travail en sciences humaines et sociales, disons à mon travail de chercheur, en fait. Hein, la modification dont il faut bien reconnaître qu'elle... On change notre rapport au travail, notre façon de travailler, nos horaires de travail et la fluidité de notre travail. Dans le fait que nous lisons des articles en ligne à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en étant connectés chez nous sur le site de notre université. Bon, ça fait qu'évidemment dans le monde réel, on fréquente moins les bibliothèques, j'avoue, mais aussi qu'on modifie notre manière de travailler, qu'on a plus facilement accès à des références anglo-saxonnes via G-Store, etc. Et donc, il y a indéniablement, du moins dans l'expérience que j'ai de mon travail, une modification aussi du type de travail que je fais, du type de recherche bibliographique, par exemple, parce que je suis connectée en permanence quand je suis chez moi et que ça m'amène à travailler de façon différente. Alors, un exemple très récent qui m'a paru intéressant pour brouiller, en fait, les pistes et continuer ces multiplicités du passage possible entre Internet et notre monde, c'est l'exemple sur le site Affordance Info d'Olivier Hertscheid, qui demande le 8 octobre 2015 que l'entrée dans le domaine public du journal d'Anne Frank ne soit pas retardée, qu'elle soit effective, étant donné que juridiquement, le journal d'Anne Frank devait entrer à la fin de l'année dans le domaine public. Bon, ce qui a été retardé parce que il y a des modifications qui ont été apportées par les ayants droit, je crois son père en l'occurrence, en 1980, et qui a ôté du texte certains aspects du journal, qui étaient surtout des aspects visiblement liés aux histoires affectives de sa fille et à ses émois adolescents. Alors, bon, il y a une polémique, je ne vais pas pour l'instant m'installer dans cette polémique, je vais simplement le prendre comme exemple. Moi, ce qui me frappe, c'est que Olivier Hertscheid insiste sur son site, sur le fait qu'il se définit à la fois comme un universitaire et comme un militant, et qu'il revendique avoir mis le fichier en ligne, donc le fichier en libre accès, en fait, sur le site d'Affordance Info, appelant d'ailleurs à ce que ces fichiers-là soient relayés et qu'ils soient partagés un peu partout sur le web, ce qui, bien sûr, est une infraction pour l'instant au droit d'auteur. Il appelle à faire cela au nom de la guérilla qu'Aaron Schwartz appelait de ses voeux. Donc, voyez, universitaire, militant, guérillero... Bon, il me semble que là, on ne peut pas refuser de poser la question de la frontière entre notre monde et Internet, puisqu'il est évident que ce que fait Olivier Hertscheid, je ne discute pas du bien fondé, hein, c'est une question difficile et je ne le prends pas comme un exemple de ce qu'il faut faire sur Internet, j'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est que s'il fait ça, c'est pour modifier des choses à l'intérieur de notre monde et qu'on peut donc avoir une action, publier un billet sur son blog. C'est pas une activité de blogueur. D'ailleurs, il se défend d'être un blogueur. Il dit « je suis un universitaire et un militant, mais je ne suis pas un blogueur ». Et c'est un statut intéressant, d'ailleurs, de se demander pourquoi les gens refusent, enfin, on peut refuser d'être appelé blogueur. Bon, parce que ce qu'il veut faire, c'est modifier, très concrètement, quelque chose dans notre monde qui est l'accès plus, sans droit d'auteur au journal d'Anne Frank. Bon, alors, au fond, si je fais le point sur les différentes stratégies que je viens d'évoquer aujourd'hui, dans cette conférence, et les oppositions que je veux voir, je considère qu'il y a deux stratégies, en fait. Il y a une stratégie de dramatisation des différences entre notre monde et Internet, et moi, je vais choisir une stratégie de limitation des différences. Alors, cette stratégie de dramatisation des différences... Bon, elle amène à nous donner une représentation de notre monde comme solide, réel, sérieux, stable. C'est là où on travaille, c'est là où on a de véritables amitiés. C'est là où on est ancré dans le réel et le quotidien et où on fait des choses qui nous ancrent dans nos existences. Et puis, on a sur Internet un monde qui serait liquide, virtuel, illusoire, branlant, trouble, dangereux, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, de ce point de vue-là, il y a une fascination pour le dark Internet que je ne fréquente pas, je vous avoue. J'ai pas accès à cette partie-là d'Internet. Mais je pense que, voilà, ça aussi, cette fascination, elle vient de là. On s'est trouvé, en fait, un monde dont on pouvait dire qu'il a à peu près tous les défauts de notre monde à nous. Parce que si on regarde notre monde, il est plein de virtualité non actualisée, il est plein de virtualité qu'on n'arrivera pas à faire advenir, il est plein de virtuel et puis il est plein aussi d'illusions. Parce que moi, je suis très frappée, par exemple, de la discussion à propos de l'amitié. Bon, alors les amis qu'on se ferait sur Internet seraient de faux amis et les amis qu'on se fait dans le monde réel seraient de vrais amis. Bon, Voltaire le disait au XVIIIe siècle, par qui sommes-nous trahis sinon par nos amis? Donc visiblement, les vrais amis... On peut être aussi déçu par cette amitié dans le monde, voyez. Je trouve qu'en fait, il y a une stratégie ici. À mon avis, là, je la prends un peu d'un point de vue psychologique, mais je pense qu'il y a une stratégie aussi pour se rassurer sur le fait que notre monde est stable. Et que Internet nous permet de dire, parce qu'il est instable, que notre monde serait stable. On sait très bien que c'est le contraire, en fait. Hein. On sait très bien, enfin, je ne vais pas dire qu'Internet est stable pendant que notre monde ne le serait pas, mais on sait très bien que notre monde n'est pas stable. Et au fond... Le cadre de la discussion que je suis en train de mener, voyez, entre dramatisation et effacement des stratégies, je me suis rendu compte, et ça vous éclairera sur ce que je veux faire, je me suis rendu compte que c'est le même cadre conceptuel que celui d'une polémique assez violente qui a opposé Jean-François Bilter et François Julien à propos de la Chine. Pour le dire très rapidement, et sans doute les participants de cette polémique diraient que je simplifie beaucoup les choses, mais pour le dire très rapidement, Jean-François Bilter reproche à François Julien de choisir des traductions qui sont toujours des traductions qui vont dans le sens d'une différence plus grande du monde chinois avec le nôtre. Et l'exemple qu'il prend, du moins celui qui m'avait marqué, dont je me souviens bien, c'est l'exemple d'un signe signifiant soit fade, soit raffiné. Alors, Bilter reproche à François Julien, je ne me prononce pas sur cette polémique, mais Bilter reproche à François Julien de choisir une traduction par fade, éloge de la fadeur, pour dramatiser les différences. Et Bilter choisit une autre stratégie à propos de son rapport, dans son rapport à la Chine, en fait, qui est de limiter les différences, et il choisirait, lui, plutôt pour traduction de ce signe, raffinement. Alors évidemment, éloge du raffinement, ça ne nous paraît pas très loin de nous, et ça nous rappelle des choses qui sont beaucoup plus proches de notre esthétique. Alors vous voyez, le cadre, à mon avis, au fond, il est le même dans cette discussion à propos d'Internet. Est-ce qu'on choisit de dramatiser les différences ou est-ce qu'on choisit de les amoindrir, les limiter, et essayer de comprendre quelle est la continuité entre Internet et notre monde? Bon, il est un peu facile, je cède à l'envie de le faire, mais évidemment, il est un peu facile de rappeler l'expression de Montaigne, notre monde est une branloire, avec deux fois monde, notre monde est une branloire pérenne. Et les mêmes. Alors, un problème se pose, d'ailleurs, Internet n'est pas plus stable que notre monde, hein, j'irai évidemment pas jusqu'à ce point-là. Je posais hier la question à Maurizio Ferraris, de savoir de ce qu'on fera de tout ce qui est en ligne sur Internet, lorsque, par exemple, les écrivains qui produisent sur des sites, c'est une discussion assez intense actuellement entre les ceux qui ont des sites, j'ose pas dire nous, mais enfin bon, j'ai participé aussi à cette discussion. C'est une discussion assez intense parce que bon, les sites, tout simplement, c'est très simple. Hein, vous le savez, on paye un abonnement tous les ans. Bon, quand on sera mort, qu'est-ce qu'il en adviendra de cet abonnement? C'est-à-dire, est-ce qu'on demande à nos héritiers de continuer à payer l'abonnement de notre site pour qu'il continue à exister en ligne? Est-ce qu'on le laisse disparaître quand on mourra? Qu'est-ce qui se passera des papiers qu'on n'a pas publiés? Parce qu'au fond, ils vont disparaître hein, dans les moteurs de recherche. Un site qu'on nourrit pas quotidiennement ou très régulièrement, c'est un site qui disparaît assez rapidement. Alors, je ne vais pas dire que Internet est plus stable que notre monde. Par contre, il se pose sur Internet les mêmes questions que celles qu'il se pose dans notre monde. Parce qu'au fond, toute la discussion à propos de l'héritage, Enfin, je la connais par un aspect très, très restreint, hein, qui est la discussion qu'il y a eu au XVIIIe siècle entre Rousseau et Kant. Enfin, évidemment, ils n'ont pas discuté entre eux, mais disons qu'on trouve des arguments qui vont dans le même sens chez l'un et l'autre, qui est qu'est-ce que c'est que cette étrange situation de l'héritage qui prolonge notre volonté après notre mort. Et ça, c'est assez invraisemblable, en fait, dans notre monde. C'est-à-dire que c'est un geste juridique extrêmement intéressant. Et on se pose actuellement la même question sur Internet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces sites qui ne sont plus alimentés et qui risquent d'être fermés. Bon. Alors, dans ces deux stratégies opposées, si, au fond, je reprends quelque chose qui est pratiquement, vous voyez, la même structure que l'opposition entre François Julien et Jean-François Bilter. Bien sûr, on peut, si on veut montrer qu'Internet est un monde très différent de notre monde, insister sur l'absence au monde qu'il induit. Insister sur les différences de ontologiques. Par exemple, moi, j'ai été très intéressée par la façon dont Maurizio Ferraris analyse dans TU, ontologie du téléphone portable, les possibilités que nous donne le téléphone portable de discuter avec, alors en n'étant pas du tout dans le même lieu, ça c'est valable pour le téléphone, mais de laisser des messages, enregistrer nos voix, le fait que dans le cadre de cette discussion-là, on ne s'est jamais demandé si le fait de parler à quelqu'un qui est au téléphone mais pas dans la même pièce que nous, ça le mettait à distance de nous, tel qu'on pouvait s'interroger sur son existence. Pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur l'existence de ceux avec qui on discute sur Internet et pourquoi le lien serait-il différent qu'avec ceux, par exemple, avec qui on construit des collaborations scientifiques extrêmement intéressantes, mais en s'envoyant des courriers ou des emails. Bon. Alors, on peut bien sûr insister sur les différences épistémiques, mais prenons par exemple l'absence au monde. Bon, après tout, quand on lit un livre, on est complètement absent au monde. Quand on est totalement concentré dans la lecture d'une page, cette page, elle est dans le livre, qu'il soit papier, mais là, je pensais à un livre papier ou numérique. Et de ce point de vue-là, on est totalement absent à la pièce dans laquelle on se trouve, à l'entourage dans lequel on se trouve, à ceux qui sont autour de nous et qui font ou ne font pas de bruit, ou ce genre de choses. Vous voyez, donc cette structure d'absorption et d'indifférence, en fait, pour un moment à l'ici et le maintenant, c'est une structure qu'on connaît bien dans le livre. Et bon, il me semble que ça ne nous a pas amené à dire que cette absorption dans les livres, elle, nous avait opposé ou coupé à notre monde. Je pense à Descartes aussi, hein, à la structure du voyage, c'est Descartes, parce que la structure du voyage, c'est Descartes, c'est commencer, un, par le voyage dans le monde, et deux, ensuite, une fois qu'on a voyagé dans le monde, voyager dans les livres. Bon, alors vous voyez, pour Descartes, il y avait ce geste de continuité qui est voyager, découvrir les autres, découvrir la diversité du monde et des pensées, un dans le monde, deux dans les livres. Et c'est le même geste chez Descartes. Alors pourquoi est-ce que nous, ça ne serait pas le même geste, au fond, que nous ferions sur Internet ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'enfermer dans la représentation que j'appellerais celle d'un Internet pittoresque, mais on peut aller vers la représentation que j'appellerais un Internet réel. Alors un exemple de pittoresque, c'est... Et là, je suis assez réservée, voyez, sur cette discussion. Un exemple de pittoresque, pour moi, c'est que dans notre monde, on est tout à fait d'accord pour écarter l'argument d'autorité, aussi raffiné soit-il. Et en me penchant un peu sur l'argument d'autorité, j'ai découvert qu'en fait, c'est un argument très raffiné, c'est-à-dire qu'on n'employait pas simplement comme exemple d'argument d'autorité Aristoteles Dixit. C'est un argument extrêmement raffiné qui a beaucoup été discuté, en fait, au Moyen-Âge. Je vous renvoie à l'article de Giacomo Carra de 2011. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi sur Internet, on est sidéré par l'impact factor, dont je vous rappelle la définition. L'impact factor, il calcule le nombre de citations d'une revue en une année T divisé par le nombre d'articles publiés dans la revue les 2 ou 5 années précédentes. Bon, alors, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'argument d'autorité raffiné et qualitatif du Moyen-Âge et l'argument d'autorité quantitatif et brutal que nous mettons en place sur Internet. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on accepte des arguments qui sont liés à l'impact factor ou à l'irréputation. Voilà. Ce qui sont des arguments dont on ne veut pas dans notre monde quotidien, immédiatement accessible. Pourquoi on les laisse ressurgir sur Internet ? La définition que je donne de l'impact factor, hein, c'est la définition de Web of Science. je suis très étonnée par ça. Et au fond, là, je crois que, vous voyez, il y a aussi une dimension politique hein, de cette représentation de la rupture entre Internet et notre monde. C'est que ça nous permet d'utiliser sur Internet des arguments que nous n'utiliserions pas dans le monde immédiatement accessible. Nous les trouverions complètement sidérants et assez invraisemblables. Alors, l'hypothèse concurrente qui est la mienne, c'est que le web continue notre monde immédiatement accessible. Et que le web est une partie de notre monde qui n'est accessible que par la médiation d'un ordinateur. Mais au fond, il y a des étoiles extrêmement lointaines qu'on ne peut voir que des milliers d'années après qu'elles aient émis leur lumière et encore en la captant à travers un télescope. Et ça ne nous fait pas du tout nous interroger sur la réalité de ces étoiles auxquelles nous n'accédons pas par nos sens. Alors voyez, au fond... Tout d'un coup, ce que j'ai fini par... Enfin, les idées les plus simples sont les plus longues à faire advenir et à trouver. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que tout d'un coup, il y avait un primat dans cette distinction entre monde réel et monde virtuel, un primat de nos sens, comme si nos sens nous donnaient l'accès princeps à la réalité, qui n'est pas non plus une chose qu'on voudrait dire dans notre monde, mais que par contre, on utilise contre Internet pour dire, bon, puisqu'on n'y accepte de pas directement par nos sens, et ben ça veut dire qu'Internet est un monde virtuel. Alors je pense que là il y a disons des stratifications d'erreurs en fait hein, à propos d'Internet, et puis surtout il y a une utilisation du rapport au sens extrêmement brutal et d'un empirisme quand même très très déchaîné si je puis dire. Alors ces oppositions radicales, elles sont disons, par exemple, thématisé dans la réflexion sur l'ontologie liquide de Gloria Origi. Bon, vous aurez compris que je m'inscris en faux, en fait, contre cette interprétation d'Internet, qui, pour moi, est à la fois pittoresque, insiste sur les différences, insiste sur la solution de continuité et sur la rupture ontologique. Alors que moi, ce que je veux proposer, c'est pas une ontologie liquide d'Internet, mais c'est une conception fluide d'Internet. On n'est pas très loin de la même métaphore, évidemment. Elle est bienvenue, hein, la métaphore qu'a choisie Gloria Origi, je reconnais, c'est une métaphore qui est très puissante, puisque sur Internet, on est dans un flux. Il y a aussi, par exemple, il y a des vagues à un moment. Quand vous regardez, par exemple, les hashtags sur Twitter, bon, bah, tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a un soulèvement sur un certain type de hashtag, par exemple, et que tout d'un coup, le hashtag passe dans les premiers sujets discutés dans la journée. Donc, c'est très juste. La métaphore est très puissante. Mais je pense néanmoins qu'on peut essayer de garder et de continuer à voir les choses justes qu'elle a à juste titre repérées, en insistant peut-être dans une conception fluide d'Internet, sur la continuité entre Internet et notre monde, et en abordant, alors ce qu'il faut bien que j'aborde, parce qu'effectivement il y a des côtés noirs d'Internet, et je ne peux pas avoir une représentation trop naïve non plus, hein, j'espère que ce n'est pas l'impression que je vous ai donnée, en insistant sur l'effet d'amplification en fait que produit Internet. C'est là-dessus que je vais m'attarder quelques instants sur ces effets d'amplification. Bon, qui sont par exemple repérés par Dana Boyd ou par Sherry Turkle dans des ouvrages assez récents, surtout pour Boyd. Bon, sur la fragilité du moi, vous les connaissez, hein, la fragilité du moi, ces distractions dans l'avatar, et le fait que, par exemple, sur Internet, on va pouvoir jouer à avoir des comptes multiples, à avoir des personnalités multiples dans des comptes multiples. Bon, c'est vrai, on peut avoir envie d'avoir, par exemple, un compte professionnel et un compte personnel sur un réseau social. On peut scinder maladroitement son activité philosophique et son écriture en ligne, comme je l'ai fait moi, et puis tout d'un coup se dire que ça ne fonctionne pas très bien, en fait. Et moi, vous voyez, cet argument sur la diffraction du moi, il ne m'a pas convaincue pour cette raison-là aussi. C'est que moi, j'ai essayé de diffracter les choses sur Internet, de distinguer très bien le professionnel et le personnel. C'est possible certainement dans certains métiers, mais quand on est chercheur et qu'on passe son temps à réfléchir sur le quotidien dans les outils de la philosophie, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la philosophie soit capable de saisir le quotidien, bon, cette distinction-là, elle ne tient pas. Alors, je ne suis pas très convaincue par ces diffractions du moi et de l'avatar. Je crois que, en fait, ce que révèlent les stratégies, par exemple, de ceux qui se diffractent sur Internet, à mon avis, c'est surtout une fragilité de leur moi. Je pense que, par exemple, la dimension chronophage des réseaux sociaux sur laquelle on insiste énormément, bon, que faut-il en penser quand vous passez du temps sur les réseaux sociaux parce que vous lisez les analyses de vos collègues sur ce qu'est Internet? Est-ce que vous perdez du temps ou est-ce que vous préparez votre communication à un colloque? Je ne vois pas pourquoi ça serait chronophage et pourquoi est-ce que ça ferait perdre du temps. Il y a du chronophage qui me paraît plus destructeur dans le monde réel, par exemple les embouteillages. Bon, et dans ces embouteillages, on ne dit pas qu'ils sont irréels parce qu'ils nous font perdre du temps. Alors, même chose, la perte de contact avec le réel dans les jeux en ligne. Bon, ça, c'est un argument qui a été beaucoup employé aussi hein, pour dire qu'Internet, ça nous mettait dans des situations étranges, qui étaient hors de la réalité, en dehors de la réalité. Bon, quand vous jouez à des jeux en ligne ou à des jeux connectés, bon, si par exemple vous jouez à des jeux de simulation de vol et que vous êtes un pilote de ligne, en quoi vous êtes en dehors de la réalité et pas en train de réfléchir sur votre pratique ? Vous voyez, là, je pense qu'on est... En fait, alors, mon idée, elle est là. C'est pour ça que je vais dans le sens d'une représentation liquide d'Internet. On est sur des frontières, des ruptures, des oppositions qu'au fond, il n'y a absolument aucune raison de faire. Bon, quand vous postez des tweets, par exemple, quand vous suivez le compte de François Bon sur Twitter... Bon. Qui, par moment, se lance dans des improvisations sur Twitter, par exemple sur la route ou ce qu'il est en train de vivre ou le train. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas de la création littéraire ? Parce que c'est sur Internet et pourquoi est-ce que ça nourrirait pas sa création littéraire exactement comme de publier un livre papier, de travailler sur le papier ? Il n'y a pas de structure d'opposition, à mon avis. Alors... La question que je me pose, c'est de savoir si ces situations pathologiques, enfin celles qu'on décrit, hein, de diffraction du moi et de fragilité du moi, est-ce qu'elles ont le web pour cause ? Est-ce qu'il est pertinent de penser un objet par les pathologies induites par le web ? Ou bien est-ce qu'elles sont simplement amplifiées par le web ? Et est-ce qu'on pourrait pas plutôt, je reviens à la troisième question qui a été posée par les organisateurs du colloque, est-ce qu'on pourrait pas chercher un bon usage possible d'Internet ? Bon, non pas en termes de régulation juridique, ce qui est un problème aussi extrêmement important et intéressant sur Internet, mais vous voyez, c'est pas dans l'idée d'une régulation juridique là, que j'ai travaillé aujourd'hui, mais c'est de savoir en particulier qu'est-ce qu'on cherche à faire sur Internet. Moi, je suis frappée dans le livre de Jean-Marie Schaeffer de 2013 sur l'écologie, la petite écologie, dit-il de façon très modeste, mais sur l'écologie des études littéraires, sur le fait que ce que souligne Jean-Marie Schaeffer, c'est que les études littéraires, elles devraient être davantage portées vers l'écriture et vers la production en fait, hein, de soi-même de littérature, peu importe la valeur de ce qu'on produit. C'est pas ça le problème. C'est de faire produire les élèves, les étudiants, faire produire nos enfants, au lieu de leur faire simplement commenter la production des autres. Il n'y a pas d'opposition non plus et il n'est pas la peine de chercher là des oppositions. Commenter et lire les grands textes, c'est ce qui renforcera notre production de l'écriture et qui nous permettra de la développer. Bien sûr, il n'y a pas d'opposition non plus. Hein. Il ne faudrait pas en rajouter une ici. Mais je pense que Jean-Marie Schaeffer dit quelque chose de très juste lorsqu'il repère l'écriture comme processus de construction de soi. Alors de ce point de vue-là, est-ce que ce que font nos adolescents qui sont constamment connectés lorsqu'ils écrivent sur Internet, c'est pas aussi construire leur représentation du moi ? Est-ce que c'est simplement de l'égocentrisme et de la publication de choses sans intérêt ? Le fait qu'elles soient sans intérêt, est-ce que c'est vraiment très pertinent à leur propos ? Je suis pas sûre qu'il faille forcément ici instaurer un jugement de valeur. Alors la dernière question que j'aurais, c'est donc celle qui a été posée comme troisième question par les organisateurs du colloque. What does the web want? Alors, en même temps, le web, c'est nous. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous voulons qu'il soit? Et est-ce qu'en particulier, on ne pourrait pas essayer d'éviter qu'il lui arrive ce qui est arrivé à la télévision, comme le dénonçait Pierre Bourdieu dans son ouvrage, je me suis trompée dans la date, évidemment, dans son ouvrage de 86 sur la télévision, où Pierre Bourdieu regrettait que la télévision, qui pouvait toucher tellement un aussi large public aussi rapidement et qui donc pouvait être, avait la capacité en fait hein, d'être une force de modification de la société, soit aussi conservatrice qu'elle l'est. Et au fond, alors, s'il y a bien quelque chose qui nous ancre dans nos défauts et qui, à mon avis, nous rend passifs et détruit notre moi, ça doit être plutôt la télévision et plutôt la télé-réalité. Voilà. Si on veut trouver de la destructivité, de la passivité, vous voyez, des mois diffractés, là, je pense qu'on est, on est bien en train de les trouver du côté de la télévision beaucoup plus que d'Internet. Hier, on a souligné déjà cette différence entre télévision et Internet. Et je crois qu'effectivement, il est très juste de dire qu'il y a une télévision. On n'est pas passif sur Internet, on est actif. Ça, c'est très vrai. C'est ce que disait Maurizio Ferraris. Mais comment faire pour éviter qu'il n'arrive à la télévision, à Internet, ce qui est arrivé à la télévision? Je vais prendre un exemple très rapidement parce que l'heure passe. L'exemple du livre numérique. Bon, le type d'échange dans lequel sont pris les livres numériques, c'est la vente d'un objet immatériel comme si c'était un objet matériel. C'est-à-dire qu'on se connecte, on achète, on paye en ligne et on achète un item contre une certaine somme d'argent, en général moins élevée que celle pour des livres matériels. Mais vous voyez, c'est la même structure, j'achète un item, je paye une certaine somme. Bon. Cette structure-là, de vente item par item, elle pose la question de savoir... Alors, d'abord, si cette structure qui est juridique, au fond, hein, de la propriété, parce qu'il ne faut pas oublier... hier, j'étais attentive à ce que disait Roberto Casati sur le fait que on avait affaire à des représentations de la réalité. Or, le droit, c'est d'abord une représentation de la réalité, et c'est une représentation extrêmement puissante de la réalité... qui va nous dire que certains objets sont des biens meubles, certains objets sont des biens immeubles, et quand on a affaire à des biens meubles, c'est-à-dire qu'on peut bouger, voilà quel est le type de contrat dans lesquels ils vont entrer. Cette structure du contrat de vente, elle a été construite de façon très puissante par le droit, mais elle n'est pas naturelle, elle n'est pas spontanée, elle n'a absolument rien de spontané. Donc vous voyez, on a une première représentation construite par le droit dans une structure extrêmement puissante de l'échange de biens matériels. Et cette représentation, alors, qui passe aussi de notre monde quotidien et immédiatement accessible dans Internet. Donc encore, on n'a que des liens de passage hein, et que de la fluidité. Bon, on a commencé par la faire intervenir sur Internet par la vente de biens culturels et immatériels, item par item. Et on a donc superposé la structure du monde matériel à celle de cette partie immatérielle du monde. Bon, je rappelle la question très juste que pose Philippe Aigrin, qui était là hier dans la quadrature du net, qui a proposé un autre modèle, alors qu'il est très difficile de faire prendre chez nous, vous imaginez bien, pour des questions de droit d'auteur, pour des questions de rapport à la propriété, rapport à la propriété intellectuelle, etc. Mais la question qu'a posée Philippe Aigrin en 2008... et je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il en aurait parlé beaucoup mieux que moi, c'est évidemment pourquoi on ne pourrait pas inventer un autre modèle de distribution des biens culturels, et en particulier pourquoi on continue à rétribuer les auteurs au nombre de livres qu'ils vendent. Vous voyez, on retrouve la même chose que dans l'Impact Factor, à cet endroit-là. Donc moi, je suis beaucoup séduite par la possibilité qu'entrevoit Philippe Aigrin, en fait, de consacrer une somme d'argent collective, en fait, hein, et pratiquement par un impôt, mais évidemment, c'est pas très séduisant si on le dit comme ça, pour favoriser ces échanges de biens. Et c'est des choses qui sont beaucoup mieux accueillies dans le nord de l'Europe que, malheureusement, chez nous, il faut bien le reconnaître. Bon, ce modèle-là, c'est un travail qui a été fait par François Bon lorsqu'il dirigeait Publinet, et c'est quelque chose qui est en réflexion et qui est toujours en cours de réflexion chez Publinet, c'est-à-dire est-ce qu'un éditeur peut avoir un autre modèle de vente, par exemple avec des abonnements, et un abonnement qui permet de télécharger autant de livres qu'on veut pendant l'année. Alors, finalement, pour moi, le problème, c'est de savoir ce que nous voulons inventer sur Internet, et surtout de souligner que, comme Internet, c'est nous qui le faisons, ce que nous y trouvons, c'est ce que nous y mettons. Et ce que nous y trouvons, c'est aussi, alors à la fois ce que nous y cherchons, parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller voir les aspects les plus sales d'Internet. On peut aussi s'abonner, évidemment, par exemple, au site, de la Fondation Thyssen ou du musée Guggenheim. Et là, moi, je crois qu'on y trouve d'abord ce qu'on y cherche, et ensuite, on y trouve aussi ce qu'on y met. Bon. Et de ce point de vue-là, notre responsabilité, comme il était discuté hier, notre responsabilité, elle est pleine et entière. En particulier... certains créateurs sur Internet récusent complètement la position d'Andy Warhol et du fait que ce qu'on cherche, c'est un quart d'heure de célébrité. Moi, je suis frappée par le fait que des photographes utilisent Tumblr ou Snapchat, des réseaux sociaux d'échange de photos pour diffuser leur travail, mais sans chercher à avoir un site et sans chercher à se faire connaître en tant que tel, comme artiste, avec un site reconnu et dans des utilisations beaucoup plus fluides, en fait, hein, que d'Internet. Alors, mon inquiétude, avec toutes les inquiétudes qu'on a déjà à propos d'Internet et de tous les effets pervers qu'il a sur notre monde, moi, mon inquiétude, ça sera en fait une inquiétude de l'effet pervers de notre monde sur Internet, à savoir, je crains qu'en fait, Internet ne finisse par dépendre bien trop des structures de notre monde immédiatement accessibles, comme à propos du livre. Et qu'en fait, il ne soit pas en mesure de se réinventer pour cette raison-là, mais qu'il ne fasse qu'irrépéter notre monde. Et je pense que ce danger-là, il est renforcé par le fait que quand on le lit dans une structure d'opposition, on ne s'aperçoit que ce qu'on y fait, c'est ce qu'on ne voudrait pas faire dans le monde réel, enfin qu'on dit réel. Je vous remercie.
Merci beaucoup Isabelle pour cette remarquable pré-intervention. Je vais donner la parole aux collègues qui sont dans la salle. Oui.
Merci déjà tout à l'heure pour cette intervention. J'ai trouvé très intéressant cette réconciliation des deux mondes et presque nécessaire en fait pour comprendre notre usage quotidien d'Internet qui est, pour moi les deux sont tout à fait intriqués. On commence une conversation d'un côté, on la termine dans le monde réel, entre guillemets, l'un et l'autre. Et sans cette unification des mondes, à mon avis, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Et à vrai dire, votre argument m'a tellement convaincu que je me suis demandé pourquoi il arrive que maintenant, en fait. Et pourquoi on a tant parlé de virtualité, et on continue tant à parler de virtualité. Et je voulais savoir, en fait... Quelle est votre idée sur la question? Moi, j'ai pensé à deux, trois pistes. Par exemple, en informatique, on a l'idée de simulation. Vous avez parlé de simulateur de vol. Donc, on a une sorte de reproduction de la réalité qui nous fait penser à un autre monde avec des potentialités. L'idée de virtualité, de simulation, de potentialité, c'est des concepts assez liés. Et il y avait aussi la question de la causalité, parce que la causalité était au cœur de votre argument. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'avec le web, il y a une sorte de... Souvent, de comme le web permet la non-coïncidence géographique des acteurs, ce que peut faire le web à notre monde n'est pas forcément visible immédiatement aux acteurs. Et du coup, il y a une sorte de distorsion de l'apparence de causalité. Qui est peut-être exacerbé avec l'exemple des drones, par exemple, qui a été thématisé récemment, où on envoie des drones en Afghanistan ou en Irak, qui sont délégués par des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui n'ont peut-être pas l'impression de véritablement accomplir les actions qu'ils sont en train de faire par l'intermédiaire de ces drones. Et je voulais savoir si c'était, à votre avis, peut-être une des causes possibles de cette vision duale, en fait, qui est encore très prégnante aujourd'hui.
Alors, pour répondre à la première, je reviens sur l'idée de simulation que vous avez apportée, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Moi, l'hypothèse que j'ai, c'est la suivante, en fait. C'est que la science positive s'est développée au 19e siècle sur une idée très puissante et qu'il n'est pas question de remettre en cause, bien sûr, qui est celle d'expérimentation. Ça a amené, sans doute pour asseoir cette idée-là qui est extrêmement juste, à critiquer tout ce qui est expérience de pensée, en oubliant très rapidement que ce que Descartes avait fait, par exemple, dans la deuxième partie des principes de la physique, enfin, c'est de la physique, et c'est de la physique par expérience de pensée, et qu'il a trouvé des lois d'optique comme ça. Alors, vous voyez, on a remplacé l'expérience de pensée des philosophes, et des philosophes scientifiques aussi, hein, à l'époque, puisque c'était pas distinct, en fait, hein, il n'y avait pas cette rupture, par l'expérience dans la science positive, à juste titre, c'était un paradigme qu'il était important de faire apparaître. Cela dit, je pense qu'on est allé un peu trop loin dans ce paradigme de la science positive, et que on peut être attentif aussi à l'importance d'une expérience de pensée et à la façon dont, par exemple, améliorer ses procédures de jeu ou sa maîtrise d'un jeu peut nous amener à améliorer certaines pratiques à l'intérieur de notre monde. Pardonnez-moi de parler de mon expérience personnelle. Je me suis rendu compte qu'avec l'habitude de parler à des gens que je ne connaissais pas sur Twitter, j'avais beaucoup plus de facilité à parler à des gens que je ne connaissais pas dans le monde quotidien, en fait. Donc, je pense qu'on apprend des procédures et qu'on les affine en fait sur avec certains objets qui peuvent ne pas être simplement l'expérimentation directe de cet objet. Alors pour moi c'est un argument très important parce que actuellement il y a une discussion effectivement dans la philosophie analytique, par exemple Frédéric Neff a écrit là-dessus dans son traité d'ontologie, vous voyez, sur l'expérience de pensée et le fait qu'en fait cette boucle par notre pensée qui paraît nous éloigner du monde, en fait elle nous permet d'y revenir. On pourrait voir le même type de raisonnement, par exemple, à l'intérieur du raisonnement moral conscient. On fait une boucle à l'extérieur de notre monde et puis on y revient. Bon, je ne vais pas m'engager dans la voie kantienne, mais voilà, je pense que c'est ça, en fait. Et je pense que, oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte, parce qu'on a le paradigme de l'expérimentation positive, de la science positive, que simuler, c'était aussi une forme d'expérimentation qui est extrêmement importante et, au fond, qui nous permet d'affiner nos procédures. Alors ça, c'est pour la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, excusez-moi, vous pouvez me la redire d'un mot en vous répondant. Oui, tout à fait, sur la causalité. Oui, alors vous avez raison, cet éloignement physique. Bon, vous voyez, je faisais référence à la façon dont Maurizio Ferraris montrait dans son ouvrage sur les téléphones portables que, par exemple, ça a changé des choses. On ne demande plus qui est à l'appareil, mais on demande t'es où, en fait. Et c'est vrai que ça a changé notre première question. Et ça a amené... Alors, il y a une citation absolument magnifique que fait Maurizio dans ce livre de la discussion... De Kant, enfin Kant Swedenborg, sur le fait que qu'est-ce que c'est que cette folie ? Est-ce qu'on va se parler d'esprit à esprit ? Il ne faut pas exagérer. Le corps, il faut qu'il soit là pour qu'on puisse se parler. Il faut qu'on soit dans la même pièce. Alors, à mon avis, ce qu'a fait le téléphone portable que décrit Maurizio Ferraris, c'est bien ça. C'est rendre possible une conversation quand on n'est pas dans le même espace. Et ce qu'a fait Internet, je crois que ça va dans le même sens. C'est-à-dire, c'est démultiplier ces éloignements parce que, bon, dans le téléphone, pour se parler, il faut quand même à un moment donné entendre la voix de l'autre et qu'on soit en même temps. On n'a pas besoin d'être dans le même lieu, mais il faut qu'on soit en même temps au bout du fil. Sinon, on fait que se laisser des messages, c'est autre chose. Bon, par contre, sur Internet... Étant donné qu'on a une possibilité qui est de se parler sans se connaître, sans jamais avoir la possibilité de se rencontrer, et sans être même du tout en même temps en ligne, parce que je peux tout à fait développer une correspondance très nourrie avec quelqu'un qui va constamment me laisser des messages et à qui moi je vais répondre, mais au fond on ne sera jamais en train de se répondre en temps réel. Donc vous avez raison, je pense qu'il y a cette structure en fait, qui a de plus en plus éclaté, si je dis éclaté c'est négatif, j'irais plutôt étendu en fait, nos possibilités, et qu'il est a rendu de moins en moins dépendante de l'ici et du maintenant, de la présence de notre corps ici et maintenant. Alors du coup, oui, je pense que vous avez raison, je suis d'accord avec vos deux suggestions, quoi. Et je pense qu'il y a cet effet d'amplification du web, on le lui a retourné. Bon, pourquoi on se demande pas si les gens qui nous laissent des messages et qu'on connaît pas sur nos téléphones portables, ils sont réels ou pas ? On se le demande pas. Alors, je vois pas pourquoi on se poserait cette question-là à propos des gens qui nous laissent des tweets et qui s'adressent à nous sur Twitter ou sur Facebook, par exemple.
Je me demande vraiment si la question réel-virtuel, la distinction, c'est vraiment dominant dans le débat scientifique maintenant. Je veux dire, c'est un peu dépassé, c'est un peu démodé. La question réel-virtuel, je vous fais seulement trois exemples. Déjà en 2001, Dana Boyd justement disait que la question du virtuel, c'est une question des années 80. On a en 2009 Richard Rogers qui publie un article qui s'appelle The End of the Virtual, la fin du virtuel. Justement, le livre que Dana Boyd a publié en 2014, It's Complicated, et c'est à propos du fait que les teenagers n'ont pas de conscience de la distinction entre réel et virtuel. Et encore, par exemple, de l'autre côté, on a Luciano Floridi qui dit qu'il y a l'infosphère, donc il n'y a pas de distinction entre réel et virtuel. Donc, je vous dis, la question réel-virtuel comme distinction, c'est ni protagoniste en ce moment dans le débat scientifique, mais ni probablement parmi les gens. Donc la question, c'est, vous partez d'un point de vue que c'est désormais dépassé. Est-ce qu'il y a vraiment la question distinction réel-virtuel maintenant, aujourd'hui? On se pose encore cette question. À mon avis, pas trop. Voilà, donc c'est seulement une remarque. Par contre, j'avais une autre remarque. Ce que je trouvais vraiment intéressant dans votre intervention, c'était la question de la mort et de ce qu'on laisse après la mort. Et je voulais vous demander si vous pouvez faire la connexion entre cette question et la question du droit à l'oubli. Donc, c'est comment dire deux tendances complètement différentes d'Internet. D'un côté, on a besoin de l'oubli parce que on dit, comme dit justement Floridi, Internet, c'est une sorte de flatland, une terre plate. De l'autre côté, on a justement le fait qu'on laisse quelque chose, mais quand on est mort, ça va disparaître. Donc, je vous demande la deuxième question. Est-ce que vous pouvez faire, essayer une connexion entre ces deux tendances présentes sur Internet ?
Sur votre première remarque, je ne suis pas complètement d'accord. Je ne peux pas être complètement d'accord, si vous voulez, parce que pourquoi les internautes, à ce moment-là, eux, continuent-ils à utiliser l'opposition IRL, IVL, vous la voyez constamment. C'est une façon de parler qui est une façon de parler qui doit bien avoir du sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon de faire de la philosophie qui est de s'intéresser au langage quotidien. Hein, et là, je me réclame du langage ordinaire, du langage quotidien à la Wittgenstein et à cette analyse-là. Bon, ce que vous voyez, c'est que les gens disent, bon, je quitte Internet, je retourne travailler. Travailler sur ces structures de bon, il faut que je travaille, je cesse d'être sur Internet. D'ailleurs, dans des situations dans lesquelles on va écrire des emails qui sont des emails de travail. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec la représentation que Dana Boyd donne dans son dernier ouvrage, parce qu'au fond, on a les ados qui sont dans un autre monde que nous. Alors, nous, on réfléchit sur un monde qui a du sens, et les ados, ils sont dans une espèce de perte de repère entre la différence entre. Moi, je trouve que c'est le monde des adolescents qui est différent pour elle.
Ouais. Dans le livre, dans l'introduction, elle dit clairement, moi, j'utilise les teenagers, non pas parce qu'ils sont isolés par rapport aux autres, mais parce qu'ils sont une sorte de mise en abîme de ce que c'est l'attitude générale par rapport à Internet. Donc, c'est différent. Et je suis convaincu qu'il y a personne ici qui pense que si moi, j'envoie un mail, n'a pas des effets réels dans mon monde. Donc, et ou si moi, je mets un post sur Facebook, ils pensent qu'il n'y a pas d'effectivité dans la réalité. Donc, je pense que tout le monde ici est d'accord.
Bon, au fond, comme on est tous d'accord, on va pas polémiquer sur ce point-là. Mais simplement, non, c'est peut-être dommage de polémiquer sur un point sur lequel on est d'accord. Mais bon, simplement une toute petite remarque. Toutes ces structures d'opposition, elles sont constantes. C'est-à-dire, si je mets un post sur Internet, ça va avoir des effets dans le monde réel. Oui, mais si je suis sur Facebook, c'est pas une activité sérieuse. Il y a le monde sérieux, il y a le monde qui n'est pas sérieux, qui est ce monde-là dans lequel je me mets en scène sur Internet, où je fais du personal branding. Où je fais des Snapchat, etc., avec mes camarades de collège ou de lycée. Bon, voilà, moi, je ne suis pas d'accord pour toute cette pensée de la structure. Et je pense, alors moi, ce que je regrette dans les ouvrages de Dana Boyd, c'est cette attention à ce qu'il y a de bizarre sur Internet. Je ne pense pas qu'Internet soit plus bizarre que notre monde. Voilà, c'est pour le dire tout simplement, le fond de mon opposition à Boyd, c'est celui-là. C'est que pour moi, Internet, il n'est pas plus bizarre que notre monde, parce que si vous regardez un tout petit peu notre monde, il est d'une bizarrerie et d'une sauvagerie absolument extrême. Oui, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais sinon, bon, vous avez raison. Bon, très bien. Après tout, si tout ce que j'ai dit est validé, est peut-être un peu trop évident, bah, tant mieux. Mais par contre, pour répondre à la question que vous posiez, oui, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Le fait que, bon, hier encore, on en discutait, et le droit à l'oubli sur Internet. Alors, bon, Idiot Ferrari, ça a raison, bien sûr. Le web enregistre tout ce que nous faisons. Mais le web aussi, ça fait disparaître mécaniquement. Bon, et ça, moi, je pense qu'on a beaucoup trop insisté sur ce problème du droit. Enfin, trop insister, non, j'ai pas besoin de le dire comme ça non plus, c'est pas non plus une structure d'opposition, mais en insistant sur le fait que la photo que je poste de moi, je sais pas, sortie d'une boîte de nuit ou un peu trop après une soirée un peu trop arrosée, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie professionnelle, des conséquences de cette photo, je vais pas pouvoir la faire effacer, elle va se balader, Google refuse d'effacer dans le monde entier ce qu'il accepte d'effacer en Europe. Bon, certes, il y a le problème du droit à l'oubli. Le problème, c'est que si on va voir oublier ce que... Bon, prenez cette littérature qui s'écrit sur le web, parce que moi, du web, c'est ce que je connais le mieux, en fait. Hein. C'est cette littérature qui s'écrit sur le web. Bon, les expériences de littérature qui sont faites, par exemple, parfois sous un hashtag, sous Twitter. Bon, bien sûr, vous pouvez les enregistrer, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez les saisir, mais ces expériences-là, elles disparaissent. Alors, la question qu'on se pose quand on les voit disparaître, c'est est-ce qu'il faut saisir les écrans, enregistrer et faire en sorte que ça ne disparaisse pas, c'est-à-dire créer des sites pour les mettre en ligne, ou alors, paradoxe complet, les publier dans des livres papier ? Finalement, la seule façon de continuer à faire exister Internet, c'est de l'extraire de lui-même et de le projeter dans le monde du papier, mais ça disparaît aussi dans les rayonnages des bibliothèques et dans l'oubli. C'est le même problème qui se pose. Et on est confronté depuis assez récemment, hein, en fait, à des situations dans lesquelles des gens qu'on connaissait, avec qui on interagissait et qui avaient l'habitude de publier un texte chaque matin sur leur blog, je pense en particulier à Maryse H, que je suis émue de pouvoir évoquer ici, bon, qui avait un très beau site qui s'appelait Le Sémé Noir, qu'elle alimentait tous les matins. Et voilà, Maryse H est morte. Qu'est-ce qui se passe de son site ? qu'est-ce qu'on fait, comment on y va, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est sur son site. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez, il y a ce site qui a cessé d'être alimenté. Et comme il a cessé d'être alimenté, il est moins cité aussi entre nous, forcément. Ce qu'on s'envoie, c'est les derniers billets, c'est les dernières références. Et donc ce site-là, il est comme une espèce d'île qui est partie à la dérive maintenant dans le web. Il n'y a plus rien qui nous y fait aller constamment, vous voyez. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a cet endroit-là qui est un peu parti à la dérive dans le web. Bon, évidemment, il se trouve que je connaissais ce site et cet écrivain, mais voilà, il y a certainement plein de situations qui sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, par exemple, que le respect qu'on doit aux morts sur Internet? Je trouve que ça serait une question qui mériterait d'être posée, vous voyez? Parce que le respect dû aux morts dans le monde quotidien, immédiat, sensible, on sait ce que ça veut dire, on sait quand il est enfreint et on sait ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est que le respect dû aux morts sur Internet? C'est-à-dire, un auteur qui n'est plus actif sur Internet, il va disparaître. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces sites-là? Et ça, à mon avis, c'est une question très importante aussi parce que comme un magnifique site comme le Tiers Livre de François Bon, bon ben voilà, c'est un site sur lequel il paye un abonnement chaque année, c'est assez modique, enfin j'en sais rien pour lui, mais moi ce que je paye sur mon site c'est assez modique, simplement le jour où je ne le paye plus, en mai il est fermé mon site, en mai de la même année, donc est-ce qu'on veut que ça soit, est-ce que ça perdure ? Je suis frappée par le fait, je vous le disais hein, tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant sur le web qui n'ont plus de site en fait. Parce qu'au fond, le site, c'est encore un lieu personnel, dépendant de nous, qui va s'arrêter quand on s'arrêtera de créer. Et c'est encore, en fait, une structure qui vient, qui est, disons... Encore une fois, je ne suis pas dans la structure d'opposition, donc le fait qu'elle vienne du monde immédiatement accessible n'est pas un problème. Mais il y a peut-être autre chose à inventer aussi sur Internet. Et donc, il y a de plus en plus de photographes qui ne font plus ça, c'est-à-dire qui n'ont pas de site, mais qui mettent leurs photos en ligne dans des réseaux sociaux, la photo circule, mais ils ne sont pas identifiés comme tels, en fait. Et ce n'est pas ça qui les intéresse. Alors, c'est pour ça que je disais, ce n'est peut-être pas ce qu'on cherche tous sur Internet, à savoir le quart d'heure de célébrité, en fait. Et du coup, ça induit, disons... quelque chose qui pour moi est assez assez intéressant parce que je vous avoue que j'ai mis assez longtemps j'ai beaucoup réfléchi sur la structure de ce que signifie une communauté scientifique chez Popper et au fond ce qu'on a avec l'idée de communauté scientifique chez Popper c'est qu'effectivement le scientifique est pas seul. Bon. Et que quand il découvre, invente, produit une hypothèse, c'est dans le bain qui lui est favorable d'une communauté scientifique. Et vous voyez, je pense que sur Internet, on a une situation qui est complètement analogue, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'internautes, et que cette communauté d'internautes, bon, forcément, qui va se créer en fonction de liens, d'affinités, etc. Hein, on n'est pas dans la communauté complètement étendue, mais cette communauté, c'est elle aussi qui va susciter des démarches de création, qui va faire qu'une idée de photo va être prise, va être démultipliée. Je pense à des échanges, par exemple, comme les échanges entre blogs qu'on appelle les vases communicants, où on va écrire pour le blog de quelqu'un d'autre, en s'installant dans le blog de quelqu'un d'autre une fois par mois. Bon, voilà, ce type d'échange, vous voyez, c'est des échanges qui vont vers l'idée que peut-être la création, c'est pas la création d'un créateur, mais c'est une création sur le web. Et que cette création sur le web, elle a peut-être pas la même structure, en fait, et elle peut être elle peut être inventée un peu différemment que l'attribution d'une œuvre à un créateur. Voilà, dans la diffusion, dans le partage.
Merci beaucoup, Isabelle.